Je voudrais ce matin parler de l'Église, ce qui n'a rien de surprenant puisque nous allons avoir notre Assemblée Générale, et souligner que l'Église, telle que la veut Jésus, est une communauté participative qui se construit avec l'engagement de chacun. D'abord dans la vie communautaire, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous accueillir avec bienveillance, à nous pardonner chaque fois que cela est nécessaire. Mais aussi dans la réflexion et les décisions communautaires, alors ça c'est justement l'Assemblée Générale, et l'exercice du don et ou des dons reçus par chacun. Ces trois dimensions de l'engagement de chaque personne dans la communauté, telle que le veut Jésus. On pourrait aborder cet aspect de la vie d'Église par un grand nombre de textes. Ils sont très nombreux dans l'Écriture. Le premier que je vais lire est tiré d'un enseignement de Jésus lui-même sur l'organisation et le fonctionnement de la communauté des disciples. Je lis dans Matthieu 23, les versets 1 à 12. Alors, Jésus dit aux foules et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Je continue, un peu plus loin, verset 6. Ces scribes et pharisiens se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, à être salués sur les places publiques et à être appelés rabbi par les gens. Mais vous, dit Jésus à ses disciples, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères et sœurs. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père Céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Ici, Jésus exprime son refus du fonctionnement religieux habituel. Le texte sur la fin apporte un enseignement sur le comportement des personnes ayant de l'autorité dans l'Église de Jésus. Après avoir présenté comme anti-modèle les scribes et les pharisiens qui se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges, qui aiment être salués et être appelés rabbi, Jésus dit ce qu'il attend des responsables de la communauté des disciples. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Mais Jésus ne se contente pas de parler de cela, de s'adresser aux responsables de l'Église, il s'adresse aussi aux membres. Quand il dit « Un seul est votre maître et vous êtes tous frères », ou quand il dit « N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père Céleste ». Jésus s'adresse aussi à des membres de la communauté qui pourraient être tentés par une présence passive et soumise face à ceux qui ont l'autorité, au lieu d'être acteurs de leur vie spirituelle. Des personnes qui sont tentées de s'en remettre entièrement en responsable, au point de les appeler pères, comme on dit pères spirituels. Nous devons reconnaître le ministère des responsables et leur autorité, et à certains moments chercher auprès d'eux des conseils, de l'aide, mais pas au point de les laisser diriger notre vie de foi, pas au point de les laisser réfléchir à notre place et prendre à notre place les décisions qui sont de notre ressort. L'église de Corinthe était tombée dans ce piège, puisque l'église était divisée entre plusieurs groupes Les uns disaient « Moi, je suis de Paul. » « Ah, moi, je suis de Képhas. » « Ah, moi, je suis d'Apollos. » Et chacun faisait de ces grands personnages comme des médiateurs de leur foi, alors que l'apôtre Paul, dans son analyse, il leur dit « Mais vous êtes comme des gamins. Vous êtes au peu qu'il est. Vous êtes immatures parce que vous avez besoin de responsables humains comme des béquilles de votre vie spirituelle. » Ça rejoint ce que nous lisons ici sous les paroles de Jésus. Je voudrais m'arrêter à une des phrases que Jésus dit. « Ne vous faites pas plaire, Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous, vous êtes tous frères et sœurs. » Ce bout de phrase, « Vous êtes tous frères et sœurs », donne deux indications fondamentales sur l'Église telle que Jésus l'a vue. D'abord, que l'Église est une communauté fraternelle, où tous sont au même niveau. L'apôtre Paul, toujours lui, écrira aux Romains, « Nous sommes membres les uns des autres. » Et en termes d'organisation, cela signifie que l'Église n'est pas une pyramide. Elle n'est pas organisée sous forme d'une pyramide, qui est le modèle politique, mais aussi religieux courant, y compris dans l'Ancien Testament. Une pyramide avec un chef ou un petit groupe à sa tête qui décide tout. L'Église, selon Jésus, est plutôt comme un cercle où chacun est fondamentalement dans la même position et invité à participer à la vie communautaire. Et donc, cela suppose, dans l'enseignement de Jésus, une implication très forte de chacun. Pas question de se laisser porter paresseusement par des responsables qui réfléchissent et décident pour moi. Chacun est appelé à prendre sa place dans la vie d'Église, à réfléchir, à discerner, à prier, à être engagé pleinement à partir de sa relation à Dieu dans la vie de la communauté. Une Église non pyramidale ne signifie pas une Église non structurée, non organisée, bien au contraire. Lorsque Jésus choisit ses 12 apôtres parmi l'ensemble de ses disciples, parmi ses objectifs, il a celui de former les futurs cadres de son Église. Et c'est ce qu'on verra dans les Actes des Apôtres, d'ailleurs. Ceux qui prendront les choses en main quand lui, Jésus, ne sera plus là. Donc, une Église participative, comme on dit aujourd'hui de plus en plus. Ça vaut le coup de réfléchir à cette notion-là. L'Église est l'affaire de tous, et la participation de tous ne se fonde pas d'abord sur des capacités particulières, mais, pour reprendre toujours l'apôtre Paul, sur la foi, l'espérance et l'amour. Les capacités humaines sont utiles, mais elles viennent en second. Elles n'ont d'intérêt que si elles sont vécues dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. L'Église est d'abord une communauté de vie particulière avant d'être un rassemblement de personnes compétentes. Une communauté de vie particulière marquée par la foi, par l'espérance et par l'amour. Les dons, les capacités peuvent même devenir un obstacle à l'œuvre de Dieu quand elles ne sont pas soumises à la foi, à l'espérance et à l'amour. Par exemple, l'apôtre Paul écrit « La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. » Mais cela peut être vrai de toutes sortes de domaines, pas seulement de la compétence. Si on fonctionne sur la compétence, on peut agir sans s'en rendre compte, comme si on n'avait plus besoin de Dieu. On ne compte plus vraiment sur lui. On sait quoi faire. Et je ne parle pas de l'autoritarisme, piège de tous ceux qui exercent des responsabilités. La foi, c'est-à-dire la relation vivante à Dieu, la confiance qu'il agit aujourd'hui, ici et maintenant, qu'il veut continuer à construire son Église et pour cela prendre chacun à son service. L'espérance, s'attendre à lui. Les choses ne sont pas figées, ni dans l'Église, ni dans ma vie. Même si nous ne savons pas toujours comment, nous pouvons continuer à grandir et à aller de l'avant. Et puis l'amour sans lequel rien de profond n'est possible dans la vie communautaire et dans toute vie collective, que ce soit l'Église ou ailleurs d'ailleurs. Les capacités humaines sont secondes et il est heureux qu'il en soit ainsi, car sinon, comment intégrer réellement ceux qui n'ont pas beaucoup de ces capacités valorisées socialement? On pourrait prendre l'exemple des 12. Jésus ne les a pas choisis à partir d'un bon CV, mais après une nuit de prière. Il n'a pas fait appel à un cabinet de chasseurs de têtes pour choisir les bonnes personnes pour un jour être chef de son Église. Il s'y est pris autrement. Nous sommes invités à regarder à Dieu qui est capable de prendre chacun d'entre nous à son service et de le faire avec nous tel que nous sommes. Avec des personnes âgées, des jeunes, sans expérience, avec des gens qui ont fait beaucoup d'études et d'autres qui n'ont pas fait beaucoup, avec des intellectuels, avec des poètes, avec des manuels, avec etc., etc. C'est avec ces diversités-là que le Christ construit ou veut construire son Église. Mais parfois, nous pouvons être organisés de telle manière qu'on ne laisse pas de l'espace à tout le monde. Il nous appartient de découvrir qu'au-delà des compétences valorisées dans nos sociétés, il y a de grandes richesses chez chacun. Des richesses qui peuvent être parfois plus ou moins enfouies sous la timidité ou des blessures profondes qui nous empêchent de nous engager plus, du manque de confiance en soi, etc. etc. Mais le Seigneur aimerait que la communauté soit suffisamment accueillante pour permettre à chacun de vivre ces choses. Alors, dans cette communauté participative, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit donne des dons à chacun. 1 Corinthiens 12, verset 7, nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun, sans exception. Ce qui signifie qu'il nous appartient en tant que communauté d'être attentifs à ce que cette manifestation de l'Esprit puisse être repérée, validée par la communauté. C'est un défi pour toutes les églises et aussi pour la nôtre. À chacun. C'est aussi un texte qui souligne que Dieu construit son Église en voulant que chacun ait sa place dans la vie communautaire et dans le fonctionnement de l'Église. Les dons du Saint-Esprit ont pour conséquence de donner une place à ceux qui sont mis de côté par le fonctionnement habituel des groupes humains, pour toutes sortes de raisons. Il nous appartient, pour construire l'Église, de dépasser ces choses-là. Je pense qu'on le fait déjà de bien de manière. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ne se limite de loin pas à la question des dons spirituels, même si c'est ce dont on parle toujours à nouveau. La première œuvre de l'Esprit, c'est de construire en nous, de développer en nous la relation filiale avec le Père Céleste. Il veut continuer à construire en nous une identité de fils du Père Céleste. Développer en nous la foi, confiance en Dieu. Nous faire grandir dans notre relation personnelle avec lui. Autre œuvre fondamentale de l'Esprit, c'est qu'il veut travailler notre personnalité. Faire pousser en nous son fruit, comme dit l'Épître aux Galates. Développer en nous une sensibilité aux choses spirituelles. Un autre élément important de l'œuvre de l'Esprit dans l'Église, c'est qu'il unit les croyants qui viennent d'arrière-plan parfois très différents ou de conditions sociales très différentes. L'apôtre Paul écrit « C'est dans un seul esprit que nous tous, qu'on soit d'origine juive ou grecque, qu'on soit esclave ou homme libre, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. » Ça, c'est essentiel dans l'œuvre de l'esprit. Et puis, je n'insiste pas là-dessus, l'équipe, on l'a vu avant, l'esprit équipe les croyants par des dons et faisant du fonctionnement de la communauté quelque chose qui ressemble à un corps où chaque partie est importante, aussi petite soit-elle. Je voudrais donner trois exemples bibliques de l'Église participative. Il y en aurait d'autres. Mais... Dans la première Église, le nombre de disciples augmente rapidement, et puis à un moment, on est bloqué dans le fonctionnement, parce que les apôtres sont responsables de tous les aspects de la vie de l'Église. Et d'un coup, on se rend compte qu'ils ne font pas bien leur boulot dans certains domaines. Et notamment dans le travail d'entraide. Il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque, et l'Église, comme faisait la synagogue avant d'ailleurs, est le lieu où s'exerce la solidarité sociale. Et dans cette église de Jérusalem, les gens de langue grecque se mettent à râler contre les gens de langue hébraïque parce que leurs veuves sont négligées dans le service quotidien. C'est la faute à personne, mais ces personnes de langue grecque sont moins bien enracinées localement. Elles viennent probablement de la diaspora. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de la diaspora, c'est-à-dire de l'extérieur du pays d'Israël, qui sont venus le jour de la Pentecôte, qui ont entendu l'Évangile et qui sont convertis. Beaucoup de gens de la diaspora sont convertis. On en connaît un dont on parle pas mal dans Actes des Apôtres, c'est Barnabas, par exemple, qui venait de Chypre. Et donc cette communauté a, dès le début, été une communauté avec des Juifs qui ont grandi dans le pays d'Israël, et des Juifs qui ont grandi à l'extérieur, dans ce qu'on appelle la diaspora. Et évidemment, les premiers sont mieux situés dans les réseaux, puisque c'est leur pays, les autres pas, et donc c'est ceux qui sont le moins bien intégrés dans les réseaux qui sont négligés. Alors, les responsables de l'Église convoquent la communauté entière, et ils proposent une vision de la situation. D'abord, ils disent, nous avons une priorité, c'est la parole de Dieu et la prière. Et donc, il faut choisir d'autres personnes pour s'occuper du service des tables, ce qui est une expression qui signifie probablement l'entraide sociale dans sa globalité. Le texte nous dit que ce discours plut à toute la multitude. Aujourd'hui, on dirait, l'Assemblée générale a voté oui. C'est ça que ça veut dire. C'est pas seulement un plaisir affectif comme ça, mais c'est réellement, l'Église a pris une décision en disant, on est d'accord avec vous les apôtres. Et ensuite, les apôtres ont dit, c'est à vous de choisir cette personne. Les apôtres ont dressé un CV, il faut qu'on rende d'eux un bon témoignage, qu'ils soient remplis d'esprit et de sagesse. Mais ensuite, c'est la multitude qui choisit cette personne. Parce que c'est ça l'Église participative, c'est la communauté réunie. Alors on ne sait pas combien de temps ça a pris, hein, parce qu'ils étaient des milliers, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour en trouver sept. Mais ils l'ont fait. Et de manière assez intéressante, les sept noms qui sont sortis sont des noms d'origine grecque. Donc il y a des chances qu'il y ait des personnes de la diaspora en grand nombre qui ont été nommées parmi ces diacres. Et on voit comment les responsables sont au service de l'engagement, de la décision, de la parole l'ensemble de la communauté. Et non pas l'inverse. Je passe vite, on pourra parler longtemps sur ce texte, mais dans Acte 15, on nous raconte le dénouement d'un conflit. Un conflit qui traversait les premières communautés chrétiennes. Un conflit grave, puisqu'il a amené des tensions, des vives tensions. Et que même, on s'est demandé s'il n'allait pas y avoir deux sortes d'églises, deux unions d'églises différentes. Le problème est venu de ce que beaucoup de païens se sont convertis à l'Évangile. Ils sont d'ailleurs convertis sans que ce soit un projet d'évangélisation de l'Église de Jérusalem qui apparemment a eu du mal à comprendre que l'Évangile était aussi pour les non-juifs. Et donc, c'est suite à la dispersion, suite à la persécution et à la mort d'Étienne que des croyants sont montés jusqu'à Antioche, au nord, et ont commencé à parler à d'autres juifs. Et il y avait des païens qui ont entendu, et ils sont convertis aussi. C'était inattendu. Et l'église de Jérusalem a envoyé des personnes pour vérifier que ça se passe bien, et notamment Barnabas. L'autre façon dont l'évangile s'est ouvert aux païens, c'est à travers la vision de l'apôtre Pierre, d'aliments impurs qu'il fallait manger. Il y a eu tout un processus qui prend presque 2 chapitres dans le livre des Actes, juste pour que l'apôtre... Un texte où il y a un grand nombre de miracles, de visions, de voix qui viennent du ciel et tout, juste pour que l'apôtre Pierre ouvre un peu plus large son regard et comprenne que l'évangile est aussi pour les païens. Toujours est-il qu'une fois que ça a été acté, d'un coup, grâce aussi à la mission conduite par l'apôtre Paul et Barnabas, beaucoup de païens sont convertis et d'un coup, s'est posé la question, comment on fait église ensemble, avec des arrière-plans aussi différents. Pour beaucoup de juifs, et notamment des juifs qui ont grandi en Israël, la réponse est évidente. Tous ces païens convertis doivent se faire circoncire et obéir à la loi de Moïse. Ils doivent devenir juifs en même temps qu'ils sont devenus chrétiens. Comme ça, on est tous pareils, c'est ça l'unité. Paul et Barnabas sont en désaccord. Les chrétiens qui se sont convertis, les chrétiens païens qui se sont convertis sur un évangile de la grâce et pas du tout sur un évangile lié à l'obéissance à la loi, sont perturbés, gravement perturbés. Et il y a de grosses tensions. Et pour régler cette histoire, on décide, Paul et Barnabas et l'église d'Antioche décident d'envoyer une ambassade à Jérusalem pour qu'on parle ensemble de cette question et qu'on la règle une fois pour toutes. Alors, le texte est assez long, je vous donne juste la conclusion. Dans la conclusion, on décide d'écrire un courrier aux églises où les chrétiens d'origine païenne ont été troublés. Et on lit dans cette conclusion, « Il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'église. » Ça veut dire que toute l'église a validé la façon dont le conflit a été réglé par les responsables. L'Église a validé, et c'est assez clairement là-dedans. Un dernier exemple, qui est intéressant, ça peut rejoindre notre Assemblée Générale. Paul écrit aux Corinthiens, alors, ça parle du culte, mais de manière générale, ça parle des réunions dans l'Église. Paul écrit quant aux prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est un autre assistant à une révélation que le premier se taise. Et attention, en effet, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Ah, c'est gonflé de dire ça. Vous pouvez tous dire quelque chose d'intelligent de la part de Dieu. C'est ça que ça veut dire, la prophétie. Tous, sans exception. C'est intéressant d'entendre ce texte dans la perspective de l'Assemblée Générale. Le texte s'applique aux réunions d'Église, donc au culte, mais pas seulement, encore une fois. Et on note en passant que les cultes, si ça parle aussi des cultes, étaient en général interactifs. Ce texte affirme la possibilité pour chacun de participer aux discussions dans l'Église quand celle-ci se réunit. Et ça s'applique évidemment aux discussions qui précèdent les prises de décision. Et cette participation de tous, elle est voulue par Dieu qui a donné l'Esprit à tous. Et donc la possibilité de dire quelque chose d'intelligent de sa part. L'Esprit choisit de révéler la volonté de Dieu, non pas par un canal unique auquel il faudrait se soumettre, la vôtre par exemple, mais par plusieurs intervenants dont les paroles successives se complètent, s'enrichissent, se corrigent, pour arriver à une conviction commune sous le discernement collectif de la communauté appelée à juger. Intéressant, comme vision d'Église. Et il arrive régulièrement, effectivement, en tout cas je pourrais en témoigner, que des gens dont on ne pensait pas qu'ils auraient forcément de bonnes idées arrivent dans des assemblées générales ou d'autres réunions à dire des choses qui aident la communauté dans sa réflexion et à avancer dans sa réflexion. Quelques mots, quelques principes pour conclure. La communauté participative dans le Nouveau Testament est construite sur une vision originale de la communauté chrétienne. La source de cette vie communautaire est Dieu lui-même, parce que c'est sa vision des choses. C'est ensemble qu'on avance. Dieu lui-même est la ressource principale pour la vie communautaire participative. D'abord comme source de l'amour nécessaire, et ensuite par l'action globale du Saint-Esprit. Cela donne des responsabilités, pour ne pas le voir juste comme des avantages, mais ça donne des responsabilités. Discerner la volonté de Dieu, c'est autre chose que de voter pour un bonhomme à une élection. Il ne nous est pas demandé de voter pour ce qui nous plaît ou ce que nous préférons. Il nous est demandé de rechercher ensemble quelle est la pensée de Dieu. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'espère que c'est clair pour tous. Et autant le droit de vote est un droit, justement, autant la participation au discernement collectif, à la réflexion collective, est un devoir. Parce qu'être chrétien, c'est pas seulement être croyant, mais c'est être membre du corps du Christ, engagé dans l'église locale. Engagé dans la participation, à la réflexion, aux décisions et au fonctionnement de la communauté. À Darnay comme ailleurs, Dieu veut piloter la poursuite de la construction de son Église au travers de chacun, et donc de nous tous. Nous sommes invités à prier toujours à nouveau pour laisser à Dieu les commandes de l'Église et lui demander de nous diriger, de nous donner les bonnes idées, de nous éclairer. Et pour un culte qui a été placé sous le signe de la lumière, on est en plein dans le thème. Cela passe par le fait de nous accueillir les uns les autres, de nous respecter avec nos personnalités et nos dons, de nous laisser conduire et parfois surprendre par des choses que nous, on n'aurait pas imaginées, mais qui peuvent être de bonnes choses pour notre communauté. On doit accepter évidemment qu'aucun d'entre nous, à commencer par les responsables, nous avons la capacité de comprendre et de gérer tous les aspects de la vie d'Église et de voir clair sur l'avenir de la vie d'Église. C'est ensemble que tout cela se construit. Amen. Amen.